Bonjour
et bon après-midi. Et merci d'être là pour essayer de découvrir Léo. Enfin, son œuvre, vous l'avez découverte à travers l'exposition qui est là depuis 4 jours, exposition remarquable de 189 cadres et qui était découpée en quatre parties. Donc on va essayer de faire un relais entre ce que va nous dire Léo et ce qui était exposé là-bas et de découvrir un peu son œuvre qui se construit quand même depuis pratiquement plus de 30 ans, quoi. Donc Léo, c'est un pseudonyme parce que tu es d'origine brésilienne et tu as migré, tu es parti du Brésil, tu as vécu en Argentine, en Chili, et pour des raisons qui étaient plutôt un peu politiques quand même. Pour quelles raisons as-tu quitté ton pays et as-tu migré vers l'Europe et...
La première fois, j'ai quitté le pays à cause de la dictature, mais à cette fois-là, c'était vers le Chili et l'Argentine. Et quand je viens en France, la dictature brésilienne s'était déjà un peu calmée. Je suis venu, pas en fouillant le Brésil, mais par volonté, et pour faire la bande dessinée. Ouais. C'était exprès déjà.
Donc, et vraiment pour faire de la bande dessinée, parce que c'est quelque chose qui te tient vraiment, qui te tenait à cœur déjà de vouloir t'exprimer. Tu avais quand même fait des essais déjà début des années 70, je crois, au Brésil, dans une petite revue qui s'appelait...
Oui, au Bicho.
El Bicho, et puis... Alors, qu'est-ce qui t'a amené à faire de la bande dessinée par rapport à ce que tu as découvert? Parce que j'imagine qu'au Brésil, il ne devait pas y avoir grand-chose en bande dessinée, à part peut-être quelques auteurs argentins.
Oui, c'était au Brésil, la bande dessinée, c'est surtout humoristique, des critiques politiques, pas une bande dessinée comme ici en France, pour adultes, bien imprimée, bien faite.
D'accord.
Et j'avais découvert justement la bande dessinée française à travers... Pilote et Métal Hurlant qui commençait à arriver au Brésil dans des librairies spécialisées.
Ah, d'accord.
Et ça m'a impressionné, il m'a choqué énormément.
Ici. Oui, cette découverte t'a plutôt fasciné et tu as décidé de vouloir. C'est vraiment une volonté de venir de t'exprimer par ce média.
Tout à fait. J'ai dit un jour je vais aussi faire ce genre de bande dessinée.
Donc tu viens en France dans les années 70 et début des années 80 et là tu vas faire quand même une ou deux rencontres importantes, en particulier. Quelqu'un qui, dans la BD de science-fiction, est quand même hyper important, c'est quand même Jean-Claude Forest, le créateur des Naufragés du Temps.
Oui, ça a été magique, rencontrer Jean-Luc Forest. Parce que moi, j'ai mis trop longtemps à réussir à vivre de la BD. C'était très difficile de percer dans la BD, non? Il y a une époque, même, je faisais la publicité pour pouvoir survivre. Mmh. Et une époque, j'étais même un peu dégoûté de la BD. C'était si compliqué de percer. J'ai pris envie de faire ça, alors je vais continuer dans la publicité, qu'on gagne plus d'argent, jusqu'au jour où quelqu'un m'appelle au téléphone, et il dit, ici c'est Jean-Claude Forest. Il dit, c'est une blague là, c'est pas possible. Et c'était lui qui était chez Okapi à cette époque, il était responsable du secteur des bandes dessinées chez Okapi. Et il m'appelle comme ça, il cherchait des dessinateurs réalistes pour faire des petites histoires véridiques, des histoires vraies, qui apparaissaient au Capi. Et ça m'a redonné...
Ça t'a redonné la pêche.
Redonné l'envie de recommencer, quoi.
Ouais. Non, surtout rencontrer quelqu'un comme Jean-Claude Forest, qui dans la bande dessinée, dans la science-fiction, que ce soit le cinéma et la bande dessinée, oui. Est quand même un des pères fondateurs du genre. Donc, tu travailles pour Okapi, puis tu vas rencontrer quelqu'un qui s'appelle Rodolphe, je crois.
Oui.
Qui est scénariste et qui est quelqu'un qui produit beaucoup. Et avec lui, tu vas... commencer à faire vraiment ce qui s'appelle une série plutôt feuilletonesque qui s'appelle Trent.
Trent, voilà.
Qui n'a rien, on va passer vite parce que c'est une série qui n'a rien à voir avec la science-fiction. Parce que
non, c'est un western qui se passe au Canada. Non,
un western qui se passe dans le nord canadien, voilà, une histoire de police montée, mais qui va avoir des rapports un peu plus tard parce que comment tu es obligé de dessiner des paysages de neige, des paysages qui ont quand même des tonalités, des couleurs assez proches peut-être que tu vas utiliser par la suite, non?
Peut-être, je n'avais pas pensé à ça, mais c'était une histoire agréable à faire, et surtout avec cette histoire-là commence ma contribution avec Rodolphe, ça a été très, très, très agréable de travailler avec lui, et ça permet qu'on continue jusqu'à aujourd'hui à travailler ensemble, en faisant une série de science-fiction, Kenya, qu'on a fait après.
Que vous avez fait par la suite. Kenya, qui a quand même des rapports avec Aldébaran aussi, quoi. Et alors, 1993 commence la grande... Je ne sais pas si c'est pour toi, comment tu l'as vécu. Donc, tu l'avais fait certainement avant. Comment t'es venu le projet des mondes... Enfin, on appelait ça les mondes d'Aldébaran, parce que finalement, ça se poursuit dans le temps. Ça dure depuis 16 ans. Et c'est un univers qui avance, quoi. Comment t'es venu cette idée de...
C'était mon projet original. C'était l'idée que j'avais quand j'étais au Brésil, quand je voulais faire la BD, j'imaginais faire la BD en France. C'était 6 ans de BD, Jean dans les bras. Je n'avais pas encore l'idée précise comment est devenue la finale des bras, mais j'avais 6 ans d'histoire. C'est-à-dire dans un futur proche, des gens qui découvrent des planètes sauvages, nouvelles, inhabitées. Non, et dans l'expo même, il y a certaines planches que j'ai dessinées à l'époque du Brésil, où on voit des personnages qui... Je vais réutiliser aujourd'hui...
Des esquisses ou des, voilà. Des vagues projets,
j'ai commencé ce genre d'histoire alors au Brésil. Et quand j'arrive en France, j'avais une énorme histoire de 60 pages, semblable à des barons. J'avais déjà quelque chose dans des barons. Et c'est cette histoire-là que j'essayais de vendre.
Différents éditeurs. Parcourais
les éditeurs et ça ne marchait pas. C'est incroyable. Et ça ne marchait pas. On me disait toujours, la science-fiction... C'est plus à la mode, les gens ne veulent plus de ça, ils veulent des histoires plus réalistes, plus ancrées dans la réalité, plus politiques. Ils disent, ah, dommage, c'est l'histoire que j'ai envie de faire, c'est celle-là.
Alors, enfin, question de base peut-être, mais pourquoi choisir la science-fiction justement qui n'était pas à la mode, qui était quelque chose qui était un peu caduque, même en littérature? Est-ce que toi, dans tes lectures, dans tes univers, dans ton univers, dans tes lectures, tu avais quelque chose qui venait de la science-fiction de quelque part ou pas? Tu en avais lu beaucoup, jeune?
J'avais lu beaucoup de science-fiction, oui, oui. Et j'aimais justement la possibilité qui donne la science-fiction d'imaginer tout. On n'a pas de limite. On peut inventer une planète, inventer n'importe quoi. Et c'est une liberté incroyable. Et je voulais utiliser ce genre de liberté, justement. Non,
ouais.
Et je voulais répéter, imiter, par exemple, la conquête de l'Ouest. On imaginait la découverte des Amériques. Je voulais réutiliser ça en transposant l'Amérique une autre planète, non, du monde nouveau.
Dans les mondes d'Aldébaran, sur ces planètes.
Voilà.
Donc, le premier album qui s'appelle La Catastrophe, on est sur une planète qui a été colonisée par les Terriens, ce y a rapport à ça. Et donc, ça démarre, on voit un animal qui vient s'échouer sur une plage. Et il y a un texte off qui dit on aurait pu éviter la catastrophe, mais on ne s'en est pas rendu compte. Et donc, à partir de ce thème, de ce petit fait divers, toi, tu vas développer une histoire qui va mettre en scène Kim, qui va être une des héroïnes, et qui va, comment dire, se développer un monde sur cette planète où il va y avoir une catastrophe, il va y avoir la mer qui se fige, et on va voir apparaître un animal absolument extraordinaire, extraordinaire, je ne sais pas, mais un animal fabuleux, alors que tu appelles la montrice. Et cette montrice est un des éléments moteurs de ton récit. C'est ce personnage, cet animal... polymorphe, protéiforme, qui va apparaître qui apparaît au fur et à mesure des albums avec des formes différentes et qui vient voir. Alors, cette mentrice, pourquoi l'avoir appelé ce mot-là? Il y a un rapport avec la matrice un peu?
Aucune idée. C'est venu comme ça, j'ai trouvé qu'il sonnait bien, quoi.
Oui, parce que j'ai cherché une définition, j'en ai pas trouvé dans le dictionnaire.
Inventé. Non. Peut-être la matrice derrière, quelque chose comme ça.
Oui, la matrice, d'où sortent plein de choses. Et cet animal, donc, va prendre des colons terriens et puis va leur, faire avaler des pilules qui vont prendre d'une manière un peu naïve et qu'on comprend pas trop bien. Et ces pilules vont avoir une influence sur leur vie parce que vont leur permettre d'atteindre un peu l'immortalité. Mais ils vont s'en rendre compte tout doucement. Ça va évoluer tout doucement au travers du récit. Alors, donc, ce premier cycle de Aldébaran dure déjà 5 volumes. Mais alors, sur un plan de narration, j'ai trouvé que ça n'avait pas grand-chose à voir avec la bande dessinée classique du feuilleton, où on a un épisode complet à chaque fois, même si chaque album a une autonomie, mais c'est plutôt construit comme 5 chapitres d'un grand roman graphique que tu as construit, c'est d'un grand roman graphique qui va durer sur pratiquement 250 pages et où tu vas développer tous ces thèmes qui te sont chers. Donc on va développer le thème de la censure politique parce que je pense que c'est dedans, on le voit au début. Tu vas développer le thème de l'harmonie, de la recherche, de la cohabitation des animaux et des humains. Alors donc, toi, pourquoi tu conçus ? Est-ce que dans ton idée première, c'était une conception de vraiment de faire 5 albums pour faire un cycle où tu es parti un peu à l'aventure ?
Non, c'était très, très précis dès le départ. Je voulais faire 5 tomes. Je trouvais qu'un seul album est trop peu d'espace pour raconter une histoire. 46 planches, c'est rien.
Oui, c'est pas suffisant, bien sûr.
Je pensais qu'il fallait forcément pour raconter une histoire un peu plus dense, pour pouvoir établir les personnages de façon un peu plus réaliste, il fallait faire une histoire plus longue, quoi. Et alors j'ai fait 5 tomes et qui se suivent. C'est vrai que chaque tome suit l'autre, ils sont dépendants des autres. Il faut lire toutes les 5 tomes pour comprendre.
Comme je disais, c'est construit comme des chapitres d'un roman, quoi.
Tout à fait.
Oui, les 5 sont liés. Donc, et dans cette construction, tu vas aussi créer d'abord ton récit, tu vas créer aussi alors, un univers qu'on découvre dans l'expo aussi en partie, parce qu'il y en a une partie qui est appelée le bestiaire. Alors là, il y a un univers d'animaux que tu vas inventer, que tu vas imaginer, on voit les prémices. Qu'est-ce qui t'a poussé à vouloir recréer cet univers complètement proche de la Terre et très différent finalement pour lui donner une certaine réalité? Mais qu'est-ce qui t'a poussé à construire quelque chose d'aussi riche et d'aussi imaginatif?
C'était justement, j'avais envie de faire ça, justement, c'est pour ça que j'ai créé l'histoire. Et j'ai parti du principe en imaginant une planète sauvage, inhabitée. Les hommes arrivent, la planète est agréable, on peut vivre doucement, le climat est agréable, elle est verdoyante. Les hommes arrivent, ok, on va coloniser ça. Ils commencent à entrer en contact avec les animaux. Bien sûr, les animaux sont différents de la Terre. Les plantes sont assez semblables, mais aussi avec des choses différentes de la Terre. Et soudain, ils se rendent compte que dans l'océan de la planète, qui est gigantesque, un océan plus grand que le nôtre, il y a quelque chose qui vit dans cet océan qu'ils ne comprennent pas, qui c'est cette créature. Et que j'ai imaginé justement, que je trouvais que c'était un des points clés de l'histoire, c'était une créature extraterrestre, intelligente, plus intelligente peut-être que les humains, mais si différente de nous, parce qu'elle a des formes changeantes, parfois elle a des formes qui sont dangereuses, et parfois elle a des formes incompréhensibles, parfois elle se fige, parfois elle est un monstre énorme, et parfois elle se divise en plusieurs animaux de petite taille. Alors les hommes ne comprennent pas cette créature, ils n'arrivent pas à communiquer avec elle, ils n'arrivent pas à comprendre ce qu'elle veut, parce que comme tu avais dit, elle leur donne une substance, une gélule qui augmente leur espérance de vie. Ils ne comprennent pas pourquoi. Pourquoi elle a fait ça? Qu'est-ce qu'elle cherche avec eux, non? J'ai trouvé bien cette idée que les hommes arrivent, ils pensent qu'ils vont coloniser, on va faire comme la Terre chez nous, là, on va organiser, on va vivre ici. Et soudain, il y a quelqu'un qui était déjà là, plus intelligent qu'eux, et qui est beaucoup plus puissant qu'eux, qui peut contrôler les hommes ou détruire les hommes si elle veut. Les hommes restent là un peu sans savoir quoi faire. Je trouvais que cette idée était très forte. Et en plus, j'ai imaginé, pour compliquer la vie de mes personnages, j'ai imaginé que le premier groupe de colons qui arrive, ils restent isolés, parce que le deuxième voyage disparaît dans l'espace, on ne comprend pas pourquoi. La Terre rompt les contacts. Et les premiers colons qui sont arrivés, disons 2 ou 3 000 personnes, restent pendant un siècle isolé du tout, isolé de la Terre, en ayant affronté cette créature, en ayant à comprendre cette créature qui est dans la mer. Oui. Et c'est ça la clé de
toute la clé de l'univers, cette présence de l'homme qui sont des colons, donc qui ont une volonté économique, qui ont une volonté de faire des choses, et qui vont se heurter à une résistance très forte des habitants naturels de la planète, et donc et de la mentrice qui, elle, va les manipuler pour quel est son but réellement alors de la mentrice? Parce que ça, tu vas le dévoiler tout doucement, mais parce qu'on va retrouver cette mentrice après dans le deuxième cycle sur Bételgeuse. Là, on va en trouver 2.
Oui.
On va retrouver Kim aussi. On va retrouver ces mentrices qui est 2. Là, il n'y en a qu'une. Là, il y en a 2. Et dans le deuxième cycle, par exemple, là, les hommes qui vont pour coloniser Bételgeuse, la planète, vont se heurter d'une manière très forte. Alors là, à la mentrice qui va finalement faire échouer leur projet, quoi. Alors, à travers cette thématique des animaux qui s'opposent à l'homme, quel est le message que tu veux faire passer? Je pense qu'il y a quand même quelque chose dans toi, dans ton univers et dans ce que tu as envie, ce que tu voudrais peut-être que soit le monde, quelque chose qui soit plutôt une harmonie ou quelque chose d'un peu écologique, ou qu'il y ait un dialogue entre les choses que ne connaissent pas les hommes et ce qu'ils font réellement. Parce que, ayant vécu la censure, ayant vécu ce que tu as, je pense que tu as quand même dans ton imaginaire quelque chose à ce sujet.
Oui, non. Dans la réalité, quand je pense là, comment j'ai créé l'histoire, comment j'ai fait, qu'est-ce que j'avais dans la tête, au départ, c'était je voulais raconter une histoire, c'était tout. Raconter une histoire, je voulais utiliser ces personnages, surtout Kim, la femme forte qu'on verrait grandir. Je voulais simplement mettre ces genres de personnages, un groupe d'humains comme ça, dans une situation difficile, critique, et raconter une histoire. Les messages, les choses à passer, on dit non, tes histoires sont écologiques, je ne me rends pas compte à la fin, hein. ça vient comme ça automatiquement en fonction du récit. Par exemple, quand j'utilise, quand je dis que dans un débat, les gens qui sont restés isolés pendant un siècle, ils doivent survivre. C'est difficile de survivre 2000 personnes dans une planète sauvage. Et j'ai imaginé qu'est-ce qui se passerait en réalité. J'ai essayé d'imaginer. Et je me suis dit, sûrement, il va y avoir un groupe de gens qui va sortir en disant, non, il faut organiser, il faut que tout le monde bosse. C'est difficile, il faut faire ceci, il faut faire cela. Il faut avoir un gouvernement avec des lois. Et les gens qui ne veulent pas travailler, qui veulent faire de la musique, non, ce n'est pas possible. Il faut travailler, tout le monde. Et je commençais à imaginer qu'on tomberait presque inévitablement dans un genre de dictature. Et il y aura toujours un petit groupe de gens qui disent non, il faut faire comme ça. Il faut faire comme ça et tout le monde doit suivre parce que c'est difficile de survivre.
C'est difficile de survivre, donc il faut un pouvoir fort, une organisation rigoureuse finalement.
Oui, justement, j'imaginais, et bien sûr, comme j'avais l'expérience de dictature brésilienne dans ma jeunesse, ça me permet d'imaginer comment on vit sur une dictature. Mais l'idée de la dictature, ce n'était pas pour raconter mon histoire ou pour faire passer. Non, c'était, j'imaginais que les gens allaient se comporter comme ça. Et je prenais même comme base les pays africains, par exemple, après la décolonisation. Des petits pays avec peu d'expérience politique, qu'est-ce qu'on voit très, très rapidement, il y a un groupe de militaires qui prennent le pouvoir pour commander les autres, donner les ordres, on va faire ceci, comme ça. Et je pensais que c'est un peu inévitable, ça, malheureusement. Dans mon monde imaginaire un peu pessimiste, j'ai toujours cette idée un peu pessimiste que les hommes ont tendance à faire ça, non, à s'entretuer, à faire des violences enfin, aux autres. J'avais réutilisé cette idée d'un pétrogeuse où je répète un peu les schémas. Ils arrivent dans une autre planète et comme j'ai besoin qu'il y ait une catastrophe quelconque que je puisse raconter l'histoire et mettre ma pauvre Kim dans une situation difficile. Là aussi, j'imagine, ils arrivent, ils souffrent, il y a un désastre, ils restent isolés encore une fois. Ils se divisent en deux groupes, ils antagonistes, ils se tuent entre eux. C'était encore ma vision pessimiste, non? Et encore, ces bêtes-jeux, ils vont arriver, et là, les humains, ces animaux...
Dont on voit la sculpture qui est en train de se faire là-bas. Ouais.
Voilà, c'est des animaux genre dauphin, aussi intelligent qu'un gorille, un dauphin, un chimpanzé.
Un peu plus
intelligent. Et les hommes arrivent, non, c'est une bête, et ils ne sont pas habillés, ils n'ont pas de ville, alors c'est une bête. Et on peut arriver et les chasser. Et là aussi, c'est... une façon de dire les hommes arrivent sur une planète sauvage, ils commencent à répéter leurs comportements qu'ils ont ici sur Terre et que c'est une façon de critiquer ce que je vois aujourd'hui, non? Mais oui. En racontant mon histoire, pas en disant non, je vais passer cette idée.
Non, c'est jamais ça. Je pense qu'en faisant ce type d'histoire à la manière des romanciers américains des années 60, type, je sais pas, Frank Herbert, Philippe Joseph Farmer ou Silverberg, la science-fiction est une manière de critiquer ou de mettre en avant ou en lumière certaines pratiques du monde humain actuel et de ce qui se passe sur la Terre actuellement. Ouais. Je pense que c'est une tradition dans laquelle tu t'inscris d'une manière très logique et très forte.
Et c'est ça, c'est un des avantages de la science-fiction, qu'on peut faire ça. Quoi.
Bien sûr.
Ouais. Et par exemple, moi, quand j'ai choisi mes personnages, les bons, quand j'ai mis les bons personnages, j'ai choisi une femme comme Kim. Je suis déjà en train de donner mon idée que moi, j'aime que les femmes soient comme ça, les femmes devaient être comme ça. Non, c'est mon idéal, mon modèle. Et quand il faut que je choisisse les méchants, alors je ne me prive pas des bêtes, par exemple, dans Aldebaran. Les méchants sont des militaires. Et bien sûr, non, c'est une expérience brésilienne, habillée un peu ridicule comme les militaires des dictateurs sud-américains, plein de médailles, de lunettes noires. Et j'ai aussi mis des religieux comme méchant dans ma première histoire. Et là, c'était par exemple, c'était pas mon expérience brésilienne, parce qu'au Brésil, à l'époque de la dictature, les prêtres, les religieux, très souvent étaient de gauche, étaient du bon côté de la barrière. Non, et c'est en arrivant ici en Europe que j'ai vu, par exemple, ce qui s'est passé en Irlande. Catholiques et protestants en Irlande, pour moi, c'était un truc hyper choquant, inimaginable. Un pays en Europe. Au XXe siècle, c'est tué à cause de la religion.
Une guerre de religion, ouais, ça te semblait Europe, inimaginable.
Dans un pays européen, à côté de l'Angleterre, pour moi, c'était choquant. Quand j'étais au Brésil, on savait ça, mais c'était loin. L'Europe est lointaine. Non. Et là, j'ai utilisé peut-être... j'ai mis les prêtres comme méchants, un peu à cause de ça, de montrer le côté mauvais de la religion, le côté un peu...
Oui, mais l'alliance du sabre et du goupillon a quand même été quand même assez forte. Voilà. Donc, tu continues donc ce cycle de Bételgeuse se construit aussi comme un roman. Et maintenant, tu es dans le troisième cycle, Antares. Alors, moi, il y a quelque chose qui m'a assez frappé dans une bande dessinée de science-fiction comme tu as. Il y a, un peu à l'instar de Valérian, de la série de Mézières et Cressin, il y a un personnage féminin, les personnages féminins sont très importants. Ce sont presque eux qui sont moteurs de pas mal de choses. Le personnage de Kim, dans le premier cycle, on la voit, elle est adolescente. On va la suivre tout au long des albums. Elle va même avoir un enfant avec un extraterrestre, finalement, avec un personnage qui vient d'ailleurs. Donc, pourquoi cette importance des héroïnes, parce que c'est pas vraiment des héros au sens noble, au sens des héros, c'est plutôt des gens normaux qui vont être entraînés dans une aventure de survie. Pourquoi cette importance des personnages féminins? Et surtout, je crois aussi que justement, la venue de ces personnages féminins a fait que la série et ton histoire a conquis aussi un public féminin. Parce que nous, on le voit en librairie, on voit bien que les acheteurs, les lecteurs sont souvent... Il y a beaucoup de femmes qui aiment beaucoup cette série parce qu'elles n'ont pas les codes BD, elles ne sont pas prisonnières de codes et elles se rentrent complètement dans l'histoire. Et je pense que ça, c'est important. Et je pense que c'est quelque chose que toi, tu as tenu à faire parce que... Est-ce que tu avais un modèle quelque part? Tu t'es servi de quelqu'un?
Non, pas forcément, mais c'était une idée que dès le départ, je voulais faire ça. Que le personnage principal, c'est une femme qui agirait comme un homme. Pas une femme fragile qui utilisait sa beauté. Non, elle fait tout qu'un homme fait. Je voulais faire ça. Je trouvais que c'était aller à contre-courant de tout ce qu'on voyait. Surtout, comme au Brésil, on a beaucoup de BD américaines. Dans la BD américaine, c'est un désastre. Les femmes sont toujours pour gêner les héros musclés. Il faut fuir, la femme tombe. Il faut que le mec la relève. Il est en danger, la femme tombe évanouie. Ça, c'est insupportable. Ça, non, il faut faire au contraire. La femme est forte. La femme est forte, les bêtes vont être un peu plus bêtes que l'homme. J'écoutais Christin raconter, par exemple, Valérie Laureline. Et c'est une histoire qui m'a marqué. Quand j'ai vu ça au Brésil, on voyait Laureline, c'est la femme intelligente, elle qui est débrouillarde, et l'autre, Valérie, il la suit comme ça.
Un peu benet, ouais.
Oui. Il comprend et tout. J'adorais ça. Je trouvais que c'était une idée qui est très sympathique et je voulais faire aussi pareil, quoi. Après, par exemple, j'étais très influencé aussi pour les films Alien. Ouais. On voit cette belle femme, la capitaine, c'est une femme. Parmi ces hommes qui étaient un peu genre camionneurs comme ça, mais c'est elle la capitaine et c'est elle qui va être la plus forte de tous, quoi. J'ai trouvé génial cette idée. Je voulais réutiliser ça dans mon histoire.
Non, en plus, c'est un moteur vraiment très, très important. Il y a quelqu'un d'autre qui a fait ça aussi, c'est François Bourgeon dans le cycle de Cyan, où ses héroïnes sont des femmes, quoi. Voilà. Les femmes qui apportent quelque chose à sa fiction, une certaine... Comment dire, comme elles n'ont pas un comportement machiste ou de héros, elles assument un comportement de femme et de responsabilité. Quoi. Et c'est vraiment important dans toutes ces séries. Quoi. Donc, autre chose importante, que ce soit le cycle d'Alex Baron, Kenya, ou même les autres, le nouveau cycle qui s'appelle Terre lointaine avec Icar. Alors, ces animaux, c'est... Comment dire, ils sortent de partout, ils sont protéiformes, ils ont plusieurs, t'en as énormément. Et ça donne une richesse à la série absolument importante, quoi, parce qu'ils sont tous différents, ils ont chacun des particularités, il y en a qui sont intelligents, d'autres moins, tu les as même définis, ils ont des noms, je les ai notés, il y en a une saga absolument énorme, il y a par exemple les animaux Aldébaran, il y a Albéniz, Amédée, Batel, Caravelle, dans Bételgeuse, il y a le Diable Vert, la Baleine des Sables, Affreux, Oiseau Tigre, Lézard des Sables. Alors ces animaux, par contre... Ils apparaissent, mais ils ont tous une logique. Ils ont carrément une logique dans l'histoire. Ils sont pas innocents. Ils sont pas là juste pour faire du décor. C'est un décor quand même qui agit, quoi, qui est très très important dans la narration et dans l'évolution des personnages.
Non, tout à fait. Ils sont apparus parce que j'avais besoin pour l'histoire avoir des animaux soit dangereux, soit sympathiques, soit beaux, soit impressionnants. Ils sont apparus comme ça. Comment dire, j'ai pas fait exprès. Au départ, je ne savais pas que les animaux allaient avoir une importance. C'est après coup que je me rencontre en rencontrant les gens. Et les gens demandaient des dessins des animaux, ils parlaient beaucoup des animaux. Je me suis dit, c'est vrai que c'est partie très importante de l'histoire. Et au départ, je faisais simplement utiliser l'avantage de la science-fiction, c'est de pouvoir inventer tout ce qu'on veut, quoi. Et je m'amusais, justement, quand j'avais besoin d'un animal, de le faire crédible. Le plus possible crédible. pour ne pas tomber sur un monstre, n'importe quoi, que les gens ne croient pas. Quoi. On regarde, oh non, ça n'existe pas. Donc je voulais faire crédible et peut-être ma tendance à faire les choses techniquement correctes. Et j'essayais, pour dessiner l'animal, imaginer les muscles, les squelettes, comment il se mouvante. J'imaginais toujours des choses comme ça pour rendre crédible. En imaginant que si le lecteur voit un animal plus crédible comme ça, s'il est mort, c'est dangereux, il va être plus atteint par l'image. Non, et c'est pour ça aussi que j'imaginais l'ambiance de la planète pas trop mirobolante. J'ai fait exprès de laisser assez semblable à la Terre. J'ai même copié, me suis basé un peu sur le paysage du Brésil. La côte brésilienne qui est exubérante, tropicale, quoi. En me disant ici en Europe, ça c'est exotique, et pour moi c'est pas exotique, c'est mon imaginaire naturel, alors c'est plus facile pour moi de dessiner du paysage comme ça. Ici j'aimais mon animal étrange, menaçant, dans une forêt normale, entre guillemets, comme ça, c'est plus choquant. Si tout était déjà mirobolant partout, si j'aimais un animal, c'est un animal de plus ou de moins, ça change pas grand chose. Je voulais non qu'il. Chaque fois qu'apparaît un truc différent, un animal dangereux, ça soit plus marquant, plus choquant.
Oui, donc ce bestiaire absolument fabuleux donne une grande, grande crédibilité à ton histoire et à tes personnages. Alors maintenant, je pose une question plus technique, parce que là-dessus, quand on regarde dans le bestiaire, on regarde même tes dessins, on se rend compte, bon, tu travailles de manière très classique, tu fais ton scénario, la planche noire et blanc, les couleurs sur des bleus. Donc, tu travailles de manière classique. Alors, dessiner les animaux, je ne sais pas... Tu as eu un travail assez important sur le dessin et surtout sur les couleurs, j'imagine que là, il y a quand même un travail de réflexion sur la couleur. Oui. Elle est très, très importante à ce niveau-là, parce que ta série, même sur les planètes, il y a des tonalités, il y a des choses qui arrivent. Il y a eu une réflexion sur la couleur pour que ça donne, pour que les gens s'y retrouvent bien et que ça participe aussi à l'effet de narration. Quoi.
Oui, surtout à l'ambiance, donc, ça aide à créer cette ambiance. Quand j'ai dit là que c'est une planète tropicale, verdoyante, alors il faut y aller avec les verts. Ouais. Assez couleur assez vif, j'utilisais parfois trop vif au départ. Et je trouvais que la couleur faisait partie intégrante de la construction de l'histoire.
Oui, c'est très important. Même dans les animaux, quand on voit la mantrice dans ses différents avatars, il y a des couleurs très différentes. On va passer d'un bleu nuit, on va la retrouver dans des couleurs vertes. Elle va arriver sur une autre forme d'un animal avec des rouges. Donc tout ce travail-là donne beaucoup de crédibilité, beaucoup de plaisir à la lecture de ces histoires. Quoi.
J'espère bien.
Bah oui, vu le succès, sans parler économie, bon, c'est quand même une série qui, depuis... Et... Je ne sais plus si c'est Moebius qui disait que c'était devenu une série culte. C'est quand même...
S'il dit ça...
Avec les qualités et les défauts des séries cultes, du culte.
Tout à fait.
C'est Moebius qui disait ça, quoi.
Oui, par rapport à la couleur, il y a un autre détail qui est contradictoire. Je trouve que la couleur, c'est importante. Et c'est pour ça que j'ai fait moi-même la couleur. Même si, pour faire la couleur, j'ai souffert énormément. Pour moi, c'est la partie la plus compliquée. C'est la couleur. Et ça prend un temps fou et c'est un travail trop minutieux, trop fatigant parfois, non ? Mais je m'efforce énormément parce que je trouve que c'est important. Et si on voit mes albums, on se rend compte que les styles de la couleur changent beaucoup.
Oui.
Dans le monde à l'autre parfois. Ouais. C'est des époques que j'ai cherché encore une façon de faire.
Oui, mais ça, c'est un peu ce qu'on peut appeler la magie de la bande dessinée. Donc tu peux faire beaucoup de choses avec,
progresse.
Ce qu'on n'appelle rien, avec très peu d'outils. Mais par contre, c'est vrai que ton travail sur le couleur, dessin, il y a un travail d'artisanat, de précision, documentation. Parce que quand on voit dans l'exposition, par exemple, les différentes études que tu as faites pour les personnages, parce qu'il y a eu un travail de recherche qui est assez compliqué, qui est assez lent, qu'il faut définir. Ce sont des personnages réalistes. C'est souvent les plus durs à manipuler et puis de les différencier.
Tout à fait.
C'est souvent le plus dur. Les animaux aussi, la création, les couleurs, trouver ça. Donc, c'est un travail, il y a tout un travail de réflexion. Et je pense que avant de te lancer, il faut combien de temps à peu près pour entre le début d'un album où tu commences à réfléchir au scénario et la fin de la réalisation technique, que tu arrives à la mot fin, tu as fini la couleur, tu as tout fini. Il te faut combien de temps à peu près?
Pour le dessin, c'est noir et blanc 6 mois à peu près et 2 mois pour la couleur. Et la couverture aussi, parfois ça bloque la couverture.
La couverture aussi.
La couverture et les couleurs, 2 mois. 6 mois pour le noir et blanc. Et les scénarios, c'est imprécis parce que les scénarios, on écrit comme ça, petit bout par petit bout, c'est l'idée qui vient, parfois ça bloque. Je ne sais pas dire combien de temps à la fin ça prend pour écrire le scénario, mais disons un mois d'écriture. Et disons 9 mois pour faire un album.
9 mois, donc oui, on comprend que tu arrives à tenir le rythme d'un album par an à peu près. Quoi.
Oui, j'essaie.
Ce qui est déjà assez important. Donc ce cycle des mondes d'Aldébaran, là on est dans le troisième cycle, en Antarès. Je peux te demander combien il y aura de cycles?
Ah, des cycles, je ne sais pas. Je laisse ouvert comme ça, on verra bien.
Tant que...
Oui, je n'ai pas envie d'arrêter l'histoire.
Ah, non, alors, nous non plus.
Je vais continuer.
Non, mais tu aurais pu imaginer donc, plusieurs cycles ou partir sur autre chose. Quoi.
J'attends pour voir. C'est trop long à faire. Non, ça fait un an chaque tome, mais j'ai fait d'autres choses intercalées. Alors, ça fait 2 ans chaque tome à peu près. Alors, ça donne le temps de réfléchir. Non, j'ai 10 ans de temps pour réfléchir après Antares. Donc, qu'est-ce que je vais faire après Antares?
Si, en dehors de ton travail d'auteur complet, scénariste, coloriste, dessinateur, tu es aussi scénariste pour d'autres auteurs, comme il y a eu Dexter London avec Garcia, et puis en ce moment, une série que tu... avec un jeune Brésilien, je crois, Icar.
Non, il est français.
Il est français. Brésilien, excuse-moi. Donc, avec Icar, une série qui s'appelle Terre lointaine, que tu viens de lancer. Et, bon, encore une série où, déjà, la couverture du premier, on se rend compte, c'est un animal sur la couverture, une espèce d'insecte absolument horrible. Un insecte intelligent aussi.
Oui.
Donc, là, qu'est-ce que tu fais avec cette série et ce dessinateur par rapport au monde d'Aldébaran? Qu'est-ce que tu veux développer un peu plus? Vers quoi tu veux aller pour... c'est quelque chose, je pense, que tu ne pouvais pas mettre dans le monde d'Aldébaran. Donc, tu l'as mis à part sur une histoire... différente.
En réalité, c'est lui qui m'a demandé d'écrire l'histoire. Et je n'avais pas le réflexe d'écrire l'histoire pour d'autres personnes. Je pensais que j'étais scénariste pour moi-même. Et je voulais rester là. Tant que j'ai écrit pour Sergio Garcia, c'était aussi lui qui m'avait demandé.
D'accord.
Frank Picard, c'est son pseudonyme. Non, c'est un ami que je connais depuis toujours. C'est un garçon que j'aime beaucoup. Il y a une époque, il voulait changer de style, changer d'histoire. Il aimait beaucoup mon univers, Aldébaran. Je voulais faire une histoire comme ça. Léo, écris-moi quelque chose dans ces gens-là. J'ai hésité. Il dit, écoute, Franck, j'ai aucune idée là, en tête. Là. J'ai hésité. Je n'ai pas donné de réponse. Le temps passe. Je commence à réfléchir. Pourquoi pas faire une histoire pour lui? Et alors, j'ai créé cette histoire pour lui. En sachant, connaissant son style, connaissant la personne, je vais faire une histoire pour lui. Et bien sûr, une histoire à ma manière. Quoi. Encore une fois, des mondes à découvrir, un futur pas trop lointain. Mais là, j'essaie de faire différent dans le Baranque. Cette planète est déjà colonisée, mais encore en état un peu non maîtrisé, comme le West américain, avec des shérifs, violences, la loi qui n'arrive pas partout. Et j'imagine une histoire comme ça, un garçon qui arrive sur cette planète pour rencontrer son père qui est parti des années auparavant pour faire fortune, comment arriver dans la conquête des États-Unis, où les gens partaient d'Europe pour aller là-bas à faire fortune et après amener la famille, la même chose. Seulement que la mère et les garçons, sa jeune sœur arrive, le père n'est pas là à les attendre. Il ne sait pas où est son père. Alors il va partir à la recherche du père. J'ai trouvé que cette idée permettait de faire des aventures comme ça.
On est vraiment dans un univers de pionniers, là. Hein.
De pionniers, j'adore ça, vraiment. Justement.
Mais il y a quand même des animaux intelligents.
Oui, j'ai inventé cet animal en disant que les hommes sont arrivés et pendant la conquête spatiale, ils ont rencontré d'autres êtres intelligents. Il a encore, je dis, il va avoir un extraterrestre intelligent comme les hommes, pas plus, autant intelligent que nous, mais avec une forme repoussante comme celle-là.
Oui, elle a une tête d'insecte. Pour ceux qui ont vu le film Infestation, c'est un peu ce genre d'animal. Plutôt, on a plutôt tendance à en avoir peur, finalement. Voilà. Elle redoutait plutôt que d'essayer de, pas de pactiser, mais de collaborer avec et puis de vivre ensemble.
Alors de mépriser, c'est un animal.
Oui, on le méprise alors qu'il est sur sa planète, il la connaît, il est important et c'est lui qui va aider les gens.
Il est plus sensé qu'un homme.
Il est plus intelligent aussi.
Plus intelligent, très.
Non, mais c'est une terre lointaine, justement, cette idée de pionnier, de conquête revient. Ouais.
Je trouve ça très amusant, un univers exploré comme ça qui permet des milliers de variantes. Quoi.
Ouais. Mais... Donc, avec Terre lointaine, tu abordes encore un petit côté d'un autre univers de la science-fiction. Tu avais abordé un autre genre avec Kenya et Rodolphe, qui était plutôt l'histoire quand on creuse les mondes perdus à la Condangue d'Ol, des choses comme ça, avec encore des animaux extraordinaires. Et avec Garcia, vous étiez parti sur une espèce de voyage un peu extraordinaire aussi dans la science-fiction. Ouais. Donc, ouais. Est-ce que tous ces univers de science-fiction, tu as envie d'aller un peu partout dans tous les domaines ou d'aller un peu d'explorer ces différentes facettes de la SF qui sont quand même importantes?
Non, tout arrive comme ça un peu par hasard, quoi. Vraiment par hasard. Par exemple, pour Kenya, on faisait Trent avec Rodolphe. Trent, c'était l'histoire de Rodolphe, c'est lui qui imaginait l'histoire. Moi, c'était que le dessinateur. Au passé, on arrivait au 7e, 8e tome de Trent, et de plus en plus, Rodolphe avait difficulté à trouver l'idée suivante. Parce que Trent, c'était des histoires complètes, chaque tome. C'est très compliqué de faire
ouais,
ça.
C'est difficile.
Hein. Très difficile. Et à chaque fois, parce qu'on s'est rencontré avant, il me disait, j'ai envie de faire ceci, c'est là, qu'est-ce que tu en penses? De plus en plus, il avait difficulté à trouver la bonne idée pour le temps prochain. Et un jour, on s'est rencontré en déjeunant comme ça pour échanger des idées. Et un jour, si on faisait un break, un trend, et on faisait une autre série, deux ou trois temps seulement, pour changer un peu. Dit, oui, pourquoi pas. Et il me pose la question, qu'est-ce que tu aurais envie de dessiner, toi? Il dit, ah, moi, en dehors de Trent, du Canada, là, que je suis déjà habitué, j'aimais beaucoup dessiner la savane africaine. Les ambiances des films de safari qu'on voyait dans les années 50, la savane africaine, des zèbres, des girafes, et derrière, les Kilimanjaro, c'est beau, ça. J'adorais l'ambiance. Et je disais, et pourquoi pas imaginer une histoire suivante. On voit un safari normal, comme c'est des films de Clark Gable des années 50, les mecs avec son chapeau, là, des belles filles qui accompagnent, les lions, les noirs qui portent comme ça, dans les classiques des safaris. Et soudain, passe parmi les ailes, passe un animal préhistorique. Et dans ma tête, c'était, il passe un oiseau qui habitait les îles Maurice, là, les dodos. C'est un nom bizarre, oui, il dit, un dodo qui traverse la scène comme ça. Il dit, oh, d'où sort cet animal? Et on pouvait commencer comme ça. Et Rodolphe écoute, il dit, oui. Et d'où sort l'animal? Aucune idée, il faut trouver l'explication après. Et c'est ça qu'on a fait, c'est comme ça qu'on a commencé Kenya. Et d'ailleurs, c'est Rodolphe, je voulais rester dans l'animal préhistorique. Et cet animal-là, non? Et j'arrive à la maison, je vais chercher les images du dodo. Je me rends compte que c'est une bête idiote, petite comme ça. Sans aucun intérêt. Là. Et j'appelle Rodolphe, je lui dis, Rodolphe, écoute, les dodos, il est ridicule, il faut trouver autre chose. Ouais. Et c'est lui qui dit, mais pourquoi on choisit une autre bête, plus impressionnante, n'importe laquelle? Et pourquoi plusieurs bêtes? Et pourquoi des bêtes qui n'hésitaient pas? Et on commence à imaginer, et l'histoire part de là. Et après, on passe des jours pour trouver une explication cohérente de pourquoi, comment expliquer ces gens de l'apparition de ces bêtes-là. Là. Et voilà, et c'était un truc qui est parti de spontané, assim, d'une idée spontanée, une envie de raconter ces genres d'histoires, qui faisait partie aussi de l'imaginaire de Rodolphe, des histoires de scoops volantes, des choses comme ça, de monde perdu.
Beaucoup de scénarios de science-fiction et un peu de fantastique aussi.
Des choses classiques de notre enfance, la mienne et la sienne aussi. Ouais. Même si on a vécu des continents différents, on avait la même sensibilité. Je me souviens que j'avais... Quand j'étais gamin, 10, 7, 8 ans, au Brésil, il a eu toute une époque des apparitions des scoops volantes. On voyait dans les journaux des photos floues, toujours floues, des photos comme ça. Ah, après, il a apparu une scoop volante. Voilà. Et nous, gamins, on était impressionnés parce qu'on imaginait des extraterrestres et tout. Et Rodolphe aussi, il disait la même chose. Il dit, alors, on va faire une histoire en utilisant ces genres des mémoires que tout le monde a, non, des soucoupes volantes, des extraterrestres. Et bon, voilà, c'est comme ça qu'est démarré l'histoire.
Les rêves d'enfants, ouais, pour les auteurs de science-fiction, c'est important. Ouais. Une question un peu plus, pas embêtante, mais je disais, là, l'interview de toi là, dans un journal, tu parlais, tu as eu, et il y a une planche aussi qu'on voit dans le truc, il y a un problème de censure, tu as eu un problème de censure avec les Américains, pour la traduction américaine, j'imagine.
Ouais.
Et il y a une planche dans l'exposition. Que vous n'avez pas mise parce que vous la trouviez trop osée. C'est une planche où on voit Kim faire l'amour avec Marc. Et pourquoi avez-vous mis cette planche? Parce que là, vraiment, rien de réellement choquant. Ou pourquoi avez-vous pris cette décision?
Moi aussi, je trouvais qu'elle n'était pas choquante. C'était...
C'est quelque chose de tout à fait naturel, finalement.
Je trouve, oui. Et c'était une scène importante. C'était pas un truc gratuit. C'était justement... On commence à accompagner Kim, elle est une gamine. Après, elle a grandi. Et là, elle est adulte, quoi. Disons qu'elle est adulte. Il rencontre les garçons, depuis son enfance, est l'amoureux de ces garçons-là. Et là, c'est la première fois qu'ils vont se rencontrer. La première fois qu'ils vont...
Qui peuvent avoir de l'intimité, quoi.
Voilà, et j'ai trouvé que cette scène était très, très importante, quoi. Et comment la montrer ? On sait, bon, dans BD, on ne peut pas trop montrer, non, c'est très compliqué. Il y a une censure qui fait que, comme c'est une BD grand public, il ne peut pas montrer certaines choses, c'est normal. Mais en France, on peut montrer beaucoup de choses quand même, non ? On peut montrer la femme nue, ça ne pose pas de problème. J'ai essayé de faire la scène assez calme, assez peu osée, en imaginant, je vais suivre dans une petite case la main du garçon qui faisait caresser la fille, quoi. Et la fille est bien, quoi. Et quand je monte ça chez Dago, il sursaute, il dit, ah non, ça ne va pas passer du tout. Cette scène-là, il dit, pourquoi ? La fille, mais elle est habillée, là, je ne montre rien. Il dit, non, mais ça ne passe pas, tu veux montrer la fille nue, mais là, ça ne passe pas. Il dit, ok, je n'avais pas compris. Jusqu'au jour, je ne comprends pas, j'adore cette planche-là.
Non, elle est très belle, cette planche.
Il n'est pas érotique, non, je n'ai pas compris. Je crois qu'il y a justement des codes comme ça qui sont... Ils sont apparus à travers les ans, ils sont restés, certaines choses on montre, certaines choses on ne peut pas montrer.
Et peut-être, c'était il y a combien d'années ça déjà c'était...
Ah, ça fait une dizaine d'années au plus, quoi.
Peut-être que maintenant on pourrait faire l'édition avec cette planche-là sans moi.
Je crois aussi.
Peut-être à l'époque où il y avait la présence de pas mal de religieux chez Dargaud. Chez les tenants, il y avait ça.
Peut-être, oui.
Alors, par contre, avec les Américains, la censure, c'est plus rigolo, quand même.
Là, vraiment, c'est...
Enfin, rigolo et ridicule, je veux dire.
C'est ridicule, c'est ridicule, là.
Ouais, tu racontais que, je crois, que les femmes nues, les femmes, enfin, qui étaient dénudées, il les rhabillait avec des soutiens-gorge à dentelle, des culottes...
Oui, c'est vraiment
ridicule. Ce qui, dans l'univers de Aldébaran, je vois pas les filles se promener en lingerie plutôt...
Non, là, j'utilise beaucoup d'érotisme, disons, dans Aldébaran... Parce que je trouve aussi qu'il fait partie de l'histoire. Je voulais, avec ça, montrer que mon personnage, Kim, est une femme qui a évolué aussi, une femme du futur, non ? Alors, les femmes ont évolué aussi mentalement et socialement, la façon de se comporter. Je voulais la faire se comporter naturellement. Et parmi, pour moi, le comportement naturel pour une femme, c'est ne pas se cacher. C'est qu'on voit aujourd'hui que la femme est obligée de cacher son corps, comme son corps était une source de menaces pour l'homme et une source de péché. Je trouve que ça, c'est des choses qui vont disparaître dans le futur, je l'espère bien. Alors j'ai fait justement que Kim et les autres se comportent naturellement. Elles enlèvent la chemise, comme un homme enlève sa chemise. S'ils ont chaud, non ? Ils vont se bailler, ils enlèvent sa chemise. Ouais. Je trouve que elle est spontanée. Elle ne va pas se cacher parce que le sein est moche. Non, l'enceinte d'une femme, c'est beau. Non, et c'est pour ça que je mets ça dans chaque tome. Il y a toujours des scènes comme ça où elle se comporte très spontanément. Non, et si on va cacher ça, comme les Américains, mettre des soutiens-gorge partout, c'est ridicule, complètement ridicule.
Ouais. Donc la censure est quelque chose que tu avais fui à t'encore rattraper. Voilà. Quoi.
Mais là, j'ai dit, ça, ce n'est pas mon problème. J'ai fait mon histoire. Si les Américains veulent faire des trucs ridicules, c'est leur problème.
Ouais. Donc, j'aurais une question plus, je sais pas, tu y répondras si tu veux ou pas. En relisant les mondes d'Aldébaran, je pense, bon, y a quand même des choses qui viennent de toi. Tu t'imaginerais dans quel personnage ? Ou quel est le personnage qui est proche de toi ?
C'est difficile à dire, quoi, mais sûrement c'est Kim, mais c'est une femme. Alors, hein, je m'imagine pas dans son rôle là, parce que je suis pas une femme.
Non, mais
c'est difficile de dire, quoi. Sûrement, on est forcément dans tous les personnages positifs qu'on fait dans l'histoire, on met un peu de soi-même, quoi. Je suppose. Mais c'est un peu mystérieux, je ne vais pas répondre.
Non, mais c'est une question que je voulais te poser, je ne vais pas y répondre. Bon, écoutez, on va garder quelques minutes pour la salle, s'il y a des questions, pour continuer avec Léo. D'abord, le remercier déjà d'avoir fait ça. C'est parce que je me suis aperçu en l'interviewant qu'il avait aussi un talent de conteur qu'il arrive à transmettre dans ses albums par ses couleurs, ses dessins. Et je trouve que ce sont de belles histoires et vraiment des beaux contes sur lesquels on peut réfléchir un peu. Y a-t-il des questions ?
Oui, alors moi je voulais parler de quelque chose qui m'avait marqué dans le Aldébaran. C'est un élément du fantastique et paradoxalement, c'est la photo la plus banale qui soit, un couple pris devant la tour Eiffel. Et la superbe idée, c'est dans Aldébaran, ça veut dire qu'ils sont peut-être immortels, c'est un ressort de l'intrigue particulièrement important. Et je voulais savoir si vous aviez eu cette idée assez tôt ou si c'est venu comme ça au fur et à mesure de l'histoire.
Une bonne question, parce que je me souviens parfaitement de cette scène-là. Et il fallait, à un moment donné, que les personnages montrent qu'ils sont très âgés, non ? Que la femme qui pensait qu'elle avait physiquement apparente 40 ans ou 30 ans, elle était à 180 ou 140 ans, un truc comme ça, non ? À un moment donné de l'histoire, il fallait que les personnages Kim et les garçons prennent conscience de ça. Elle allait leur dire. Dans le scénario original, elle leur disait simplement, elle avait un moment, elle était en train de parler, elle racontait, je vais vous dire une chose, j'ai 140 ans. Et ça, c'était un peu banal, non ? Une façon de passer cette énorme information pour l'histoire, très importante pour l'histoire. Et j'étais pas satisfait, quoi. Pas satisfait, c'est comment faire autrement ? Et alors j'ai eu cette idée-là un peu au moment que j'étais en train de dessiner déjà. Ces choses rares, en général, j'écris tout avant et j'ai su les scénarios. Et de temps en temps seulement, j'échange quelque chose en dessinant. Et cette scène-là, c'était une que j'ai changée et j'ai trouvé que c'était une très belle idée. J'ai adoré cette scène-là, cette photo. C'est la dernière planche, la dernière page de l'album qui ça prépare le prochain. Les gens disent, ils terminent, ils sont obligés de lire le prochain, quoi, pour comprendre.
Est-il quelqu'un qui veut prendre la parole ? Bon. Bon, ben écoutez, merci d'avoir écouté. Je crois qu'on peut quand même applaudir Léo pour son travail et ça.
Merci à vous.
Je crois que c'est bien. Donc. D'ici quelques minutes, vous pourrez retrouver Léo sur le stand de la librairie où il signera ses bouquins. Je précise qu'il ne fera que des signatures, pas de dessins. Donc, soyez. Voilà. Merci à tous.